Et bonjour auditrices et auditeurs d'Antenne Doc, bienvenue dans ce temps de direct, pas tout à fait imprévu, on vous l'avait annoncé depuis quelques jours. Je reçois aujourd'hui dans les studios la Ligue des droits de l'homme, représentée par Leïla Kenouda. Bonjour Leïla.
Bonjour William.
Tu es venu avec Yves Quintal. Bonjour Yves.
Bonjour William.
Et vous êtes venus tous les deux en compagnie de Nicole Fréchoux. Bonjour Nicole.
Bonjour.
Nicole Fréchoux, eh ben toi, tu es venue nous présenter un livre que tu as écrit, Joseph, histoire d'une migration. Livre qui sera présenté ce soir à l'occasion de la projection d'un film de la conquête, à voir dès 18h30 au cinéma Le Grand Palais à Cahors.
Tout à fait.
Alors, c'est un film et un livre qui vont nous parler les deux de la colonisation de l'Algérie par la France. Pour ce faire, eh ben, on va remonter un petit peu le fil de l'histoire pour revenir un petit peu sur tout ça. On commence par quoi ? Par présenter le film ? Déjà, on représentera le film enfin. Yves, alors ce film qu'on voit ce soir, quel est-il ? Enfin, de la conquête ?
Mais écoutez, la réalisatrice du film François Prenant, née Françoise Prenant en 1952, a fait ce film et la réalisatrice nous a écrit en proposant à Cahors, au cinéma Le Grand Palais, de passer ce film. Et ça tombait bien puisque Leïla avait une amie qui habitait pas trop loin, qui a écrit sur la même période, elle va nous le dire un peu plus d'ailleurs. Et donc le film et le livre se complétaient bien et ça tombait bien. Le cinéma était d'accord pour prendre le film et donc on le passera ce soir. Voilà, c'est un film, vous pouvez retrouver l'article dans Le Monde il y a une semaine, dans Télérama aussi. C'est un film pas facile à voir, je crois, et qui se suffira presque à lui-même, mais dont le livre de Nicole Fréchoux va nous apporter un éclairage plus direct, plus personnalisé. Et donc, ça va être une belle soirée ce soir autour de ce film.
Mmh. Et alors, le livre en question, hein, pour en parler, Joseph, histoire d'une migration. Et bien, toi, Leïla, tu nous avais préparé quelques questions. Et on va commencer comme ça. Eh ben, je vais te prêter mon rôle de journaliste et je te laisse commencer cette conversation en compagnie de Nicole.
Super, merci William. Nicole, bienvenue à Cahors.
Merci.
Je crois que c'est la première fois que tu viens peut-être nous rendre visite. Non, t'es déjà venue par le passé.
Venue, oui.
Bon, mais là, c'est encore meilleur aujourd'hui.
Oui, c'est sûr.
Donc, bienvenue à toi. Moi, j'aurais aimé un peu que tu puisses être en capacité de te présenter pour que les personnes qui nous écoutent puissent un petit peu savoir qui tu es, ce que tu fais. Comment t'es venue aussi un petit peu cette idée d'écriture et que tu nous racontes, que tu te racontes aussi un petit peu.
Et c'est arrivé pendant le confinement parce que, comme beaucoup, je m'ennuyais. Et dans notre famille, on nous disait toujours que la branche alsacienne était partie en 1870 pour fuir les Prussiens. Mais en vidant la maison de ma mère décédée, je suis tombée sur le livret militaire de mon arrière-grand-père. Et j'ai découvert qu'il était né en 64 à Oran. Donc là, toutes les questions se sont posées. Pourquoi ? Qui est parti ? D'où ils sont partis ? Pourquoi on nous avait toujours dit qu'ils étaient partis en 70 alors qu'ils étaient déjà installés là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc j'ai remonté un peu le fil de cette histoire. J'ai retrouvé le village d'où ils étaient partis. J'ai retrouvé la maison de Joseph. Et puis, je me suis trouvé aussi une nouvelle cousine, puisque j'ai coécrit ce livre avec Geneviève Deneu, qui est adjointe au maire du village en question, qui est généalogiste, et qui m'a aidé à faire quelques recherches sur place. J'y suis allé. Et donc, l'histoire est partie de là. Donc, la première question, c'était pourquoi ils sont partis? Et alors, ils sont partis, il a fallu regarder un peu la situation économique et sociale du moment. Et on se rend compte là que les années, depuis la fin des guerres napoléoniennes, il y avait de gros problèmes sociaux, économiques, puisqu'il y avait des mauvaises récoltes, les gens, ils étaient affamés, il y avait des disettes, des famines, etc. Et on arrive comme ça à l'année 50-51, c'est le coup d'État de Napoléon III. Mmh. Qui déporte les premiers républicains pour s'en débarrasser et qui les envoie en terre d'Algérie. C'est au moment, juste avant, où les immigrés partaient en Amérique. Mais en Amérique, on pouvait plus partir à ce moment-là parce qu'il y avait une épidémie de choléra à New York et au Havre. Donc ils ont bloqué tous les bateaux, ils ont mis les migrants dans des bateaux et leur ont dit « vous allez en Algérie ». Donc ils se sont retrouvés comme ça, les premiers migrants à partir pour l'Algérie. Et Joseph avait une grande famille, il avait déjà 6 enfants, il avait sa femme enceinte, et la mine de fer qui était la seule ressource du village a été inondée. Donc il n'y avait plus de travail, il y avait de grosses difficultés, il y a eu des ateliers de bienfaisance pour occuper les habitants. Et à ce moment-là, il y avait une grosse propagande gouvernementale en disant « Allez en Algérie, on vous donnera des terres, vous verrez, c'est le paradis, vous aurez le climat qui est favorable, etc. » Donc ils sont partis parce qu'ils n'avaient plus rien et parce que, comme toutes les migrations, toutes les origines des migrations sont les mêmes. C'est la guerre, c'est la famine, c'est la pauvreté qui fait que les gens, ils partent de chez eux. Ils partent pas de chez eux, ils ne partent de chez eux que contraints et forcés. Les gens, ils partent pas de chez eux comme ça. Surtout à cette époque-là, parce que il fallait 15 jours en charrette pour descendre la vallée du Rhône. Donc c'était des conditions extrêmement difficiles. Donc voilà, je voulais mettre l'accent sur ça en disant que nous sommes un peuple de migrants et qu'il faut regarder les migrants avec toute la pauvreté qu'ils ont laissée derrière eux pour tout laisser sur place et venir dans des pays qu'ils ne connaissent pas. Et c'est toujours très très compliqué d'arriver comme ça dans des endroits où tout est nouveau, où tout est différent. Et voilà, sauf que eux, ils sont arrivés dans des conditions extrêmement difficiles puisque le gouvernement leur avait promis des choses, mais c'était pas exactement ce qu'ils ont trouvé sur le terrain puisque les terres n'étaient pas cultivées, fallait les défricher, les maisons n'étaient pas construites, les premiers colons, on les a accueillis sous des tentes dans des conditions sanitaires effroyables. Et moi, je vous conseille aussi de lire, quand vous aurez lu mon livre, bien entendu, le livre de Mathieu Bélézy, Attaquer la terre et le soleil, c'est l'histoire d'une famille des premiers colons de 1840 qui arrivent et qui s'installent en Algérie dans des conditions effroyables. D'ailleurs, les épidémies de choléra dissèment toutes les populations. Et Joseph, qui a eu beaucoup, beaucoup d'enfants, les enfants mouraient en bas âge. C'est-à-dire que
liés à des épidémies.
Liés à des épidémies, oui, tout à fait. Quand il est parti en juin 1852, il est parti avec sa femme et 6 enfants. Un an après, et 3 enfants étaient morts et sa femme aussi. Et je regardais comme ça, je disais, mais pourquoi il y a autant de morts, des enfants qui vivaient que quelques jours, quelques mois, quelques années? Et là, c'était les épidémies, choléra, typhus, malaria, etc., etc. Donc, ils étaient dans des conditions vraiment extrêmement, extrêmement difficiles et précaires.
D'accord. Et Joseph, de ce fait, a perdu combien d'enfants?
Alors lui,
liés aux épidémies?
Mais lui, il a eu 15 enfants en tout avec 2 femmes, puisqu'il s'est remarié très vite, un an après la mort de sa femme, avec une autre Alsacienne d'ailleurs, parce que les communautés étaient regroupées, donc ils vivaient un peu entre eux. Il faut dire que les Alsaciens, à cette époque-là, ne parlaient pas français. Ils parlaient allemand ou alsacien. Et d'ailleurs, ils n'écrivaient pas français non plus. Et donc lui, il a perdu, sur les 15 enfants au total, quand j'ai fait toute la généalogie, il y en a 3 qui sont arrivés à l'âge adulte. Et sur les 3, il y en a un qui a dépassé l'âge de 40 ans.
Ah oui. C'est pas énorme. Ouais.
Et c'était le commun de toutes les familles.
Oui.
Là-bas.
D'accord. Donc, de ces familles qui vivaient en Algérie, qui avaient quitté donc ici le territoire français, ou on va dire le territoire européen, hein, parce qu'il n'y a pas
Italiens.
Eu que des Français.
Non,
hein,
non.
Voilà, il y a eu des Espagnols, des Italiens, des Corses. Et donc, tout ce monde-là qui arrive en Algérie. Mais alors, la colonisation là-bas, à travers les récits que tu as pu retrouver comme ça, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce qui s'y est passé et du coup, les conséquences que ça a aujourd'hui de nos liens avec l'Algérie?
La colonisation, les 10 premières années en tout cas, ont été terribles, même après, puisque les populations se révoltaient en permanence, elles avaient raison de se révolter. Les populations locales, les musulmanes d'ailleurs, qui n'avaient pas le statut de citoyen, on leur a toujours refusé d'avoir le statut de citoyen. C'était des sujets, c'était pas des citoyens, puisqu'ils n'avaient pas le droit de vote, ni le droit d'être élus. Ce qu'on n'avait pas fait avec les juifs d'ailleurs, puisque les juifs d'Algérie ont eu la citoyenneté dès 1871, 1872, Toulouse sans aucune condition. Mais les musulmans, on leur avait dit, si vous voulez la citoyenneté, il n'y a pas de problème, mais vous devez abandonner votre religion et votre mode de vie. Ce qu'ils ont refusé, et ils avaient raison, ils étaient chez eux. Et il y a très peu de musulmans qui ont accepté d'abandonner leur culture et leur mode de vie pour devenir citoyens. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, en 1871-1872, on a rédigé le code de l'indigénat, qui est une horreur, qui est un parallèle qu'on peut faire avec le code noir pour l'esclavage. Et c'est une colonisation, c'était une colonie de peuplement, l'Algérie. C'est-à-dire qu'on voulait que la majorité des peuples soient chrétiens et soient en majorité au-dessus des musulmans. C'est-à-dire qu'on voulait asservir les musulmans et les rendre minoritaires. Il y a eu des massacres, il y a eu dans toute l'histoire de la colonisation, je passe sur les enfumades de populations entières, des milliers de personnes qui étaient regroupées dans des grottes et que le général Bugeaud, le maréchal ensuite, qui a donné l'ordre d'enfumer des populations entières, des villages entiers, ce qu'on trouve dans le film d'ailleurs, qui est très bien fait. Et on retrouve, moi j'ai écrit ce livre sur la base de documents historiques, et on retrouve des interventions qui sont aussi citées dans le livre, notamment le général Lamoricière, quand il dit, je peux vous donner sa citation exacte, c'est une horreur quand même. D'ailleurs, le colonel de Montagnac, en 43, dit « Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe. L'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Qui veut la fin veut les moyens. Quoi qu'on en dise, les philanthropes, tous les bons militaires que j'ai eu l'honneur de commander sont prévenus par moi-même que s'il leur arrive de m'amener un arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre. Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux arabes, tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de 15 ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs, en un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens. Voilà comment on traitait les populations autochtones quand on a mis le pied en Algérie. » Ça, c'était en 1843. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 13 ans de guerre.
Une réelle volonté de faire un génocide.
C'est une réelle volonté d'anéantir, en tout cas, les populations locales à qui on prenait les terres au fur et à mesure et qui se révoltaient. Il y a un tiers de la population musulmane qui a été tuée par les premiers militaires français. Et ça, c'est une horreur absolue, absolument. Il y avait la volonté, effectivement, de les anéantir, et ceux qui restaient, si on ne pouvait pas les tuer, de les asservir.
Mais alors, moi, je me pose quand même une question plus grande dans l'histoire. Mais d'où vient cette espèce de lien? On ne peut pas parler d'un lien, c'est un non-lien avec le peuple arabe. Comment ça se fait que le peuple français a voulu faire ça? Moi, ça me dépasse personnellement.
Il faut se replonger dans le contexte de l'époque. 1840, c'est la fin de l'esclavage. Et on sait très bien que les grosses fortunes et les économies étaient basées sur l'esclavage. Donc l'esclavage a été aboli en 1848. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de coloniser l'Algérie, puisque de 1830 à 1800, à la fin de la guerre, 1847-48, quand Abdelkader a abdiqué, il n'était pas question de coloniser l'Algérie. C'est le général Bugeaud qui arrive à un moment donné à l'Assemblée nationale et qui dit « Il ne faut pas avoir eu tous ces morts pour rien, il faut absolument peupler l'Algérie avec une population chrétienne de façon à passer au-dessus et à dominer les musulmans ». Et ça, c'est un réel problème, parce qu'on est arrivé dans un pays que, à l'époque, ils pensaient vide de population, ils pensaient arriver avec des terres vierges, mais ils sont arrivés dans un pays où il y avait une population structurée, qui avait sa propre organisation, sa propre religion, son propre mode de vie, et il n'était pas question pour eux d'en changer ou de se trouver sous le coup de. Donc, ça a été plus difficile que ce qu'ils pensaient, c'est pour ça que ça a duré quand même plus de 10 ans. Ils se sont battus, ils ont essayé de garder leurs terres, et au fur et à mesure qu'ils se révoltaient, on les repoussait dans des terres un peu plus loin, on leur prenait leurs terres fertiles, ils se révoltaient, etc., etc. Ça a duré à peu près jusqu'en 1871. Je vais au-delà du film qui s'arrête en 1848, puisque je vais jusqu'en 1962. Et en 1871, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il y a 2 ans de sécheresse, invasion de criquets. Donc les populations meurent de faim. et du typhus. Et ils ont été repoussés dans des terres infertiles, il n'y a plus d'eau, le bétail meurt aussi, donc ils se rapprochent des villes et on les laisse mourir aux portes d'Alger notamment, du typhus et tout ça. Il y a un tiers de la population qui est morte à ce moment-là de maladies et de faim. On les a affamés. On a affamé des populations entières. D'ailleurs, ça faisait partie, et on l'entend aussi dans le film, ça faisait partie d'une stratégie militaire. C'est-à-dire qu'il y avait des razzias de villages. Il y avait des razzias de villages où on brûlait tout, on leur enlevait tout moyen de consistance, et ensuite, on les affamait pour les asservir. Et ça, c'était une stratégie militaire.
Oui, oui, clairement, on peut parler de blocus. Aujourd'hui, on entend ce mot dans l'actualité contemporaine, mais c'était ce qui était fait à l'époque. On les coupait de tout vivre.
Oui, mais c'était... je ne parlerai pas de blocus, moi, parce que ce n'était pas fermé. Mais c'était vraiment une stratégie militaire. C'est-à-dire qu'on brûlait leur récolte, on brûlait leur village, on brûlait leur maison, et on les tuait. Et parce qu'on les considérait comme complices de ceux qui se défendaient, en fait. Mm-hmm. Parce que, voilà, les populations autochtones n'ont pas arrêté de se révolter tout au long de ce siècle-là. Et les populations colons, qui étaient sur des petites terres, parce qu'il y a 80% de la population qui vivait aussi pauvre que les populations autochtones, vivaient dans la misère, dans la pauvreté. Quand on parle des pieds noirs d'Algérie et des colons, on pense grosses propriétés. Il y avait des propriétés de 200, 300 hectares. Mais du côté d'Oran, en tout cas, il y avait de grosses propriétés comme ça. Mais c'était pas la majorité. La majorité, c'était des ouvriers. Il faut relire le livre d'Albert Camus, le premier homme, qui décrit bien la situation des Européens qui étaient aussi pauvres que les autochtones. La différence, c'est que les musulmans, on les traitait, comme des inférieurs. On les appelait les indigènes.
On les appelait les indigènes à l'époque. Je me souviens aussi d'un film qui est sorti qui s'appelait Les Indigènes de... Je crois que c'était de Jamel Debbouze, il me semble, où il retrace bien cette partie de l'histoire. Voilà. Moi, la question que je me posais, en fait, quand je t'écoute, Nicole, j'ai un peu l'impression que, pour moi, enfant issu de l'immigration... Leïla Kenouda, 46 ans, mon père est d'origine algérienne, mon père est français puisqu'il est né pendant la colonisation à l'époque, et de fait mon papa est français, il l'a découvert très tardivement qu'il était français, hein, bien après son arrivée en France, mais quand j'écoute un petit peu cette partie de l'histoire que tu dans ton récit, j'ai un petit peu l'impression qu'on nous a vendu... les souvenirs que j'en ai de la mémoire, de ma mémoire de jeune fille à l'école, quand j'ai pu avoir accès à cette partie de l'histoire au niveau de l'instruction scolaire, hein, j'ai un peu l'impression qu'on nous a vendu un peu tout et n'importe quoi et alors je dis pas que tout est parfait tout le temps partout, mais voilà, on nous a donné une version de l'histoire en fait où
édulcorée
bien sûr. Ouais. Une version de l'histoire et du coloré. Et quand je dis ça, en fait, c'est parce que c'était... quand on nous a expliqué comment ça s'était passé, la colonisation, déjà, ce mot-là, il apparaît très peu. Colonisation, on n'en parle pas. On ne parle pas d'occupation, on ne parle pas de colonisation, on n'en parle pratiquement pas. Moi, je le découvre très tardivement, tout ça, cette partie de l'histoire, quand j'en parle avec ma famille, etc. Mais à l'école, le souvenir que j'en ai, c'est... Les Français, ils étaient chez eux, quoi. Et c'est les Algériens, c'est les indigènes, c'est les tribus qu'il y avait en Algérie qui semaient la guerre et la terreur un petit peu pour reprendre des terres qui ne leur appartenaient pas, en fait.
Ils se défendaient peut-être, tout simplement.
Abdelkader était un brigand.
Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, ça m'interpelle parce que je me dis, déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants ? Aujourd'hui, j'ai l'impression pas grand-chose, de toute façon, parce que parler de la colonisation algérienne, on a l'impression qu'on parle de quelque chose d'une boule de dynamite, évidemment. Mais parler de la colonisation algérienne dans les manuels scolaires, on n'en parle plus ou très peu. C'est pratiquement pas cité. Et voilà, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu des discours racontés qui sont au-delà du fait d'être édulcorés, qui sont totalement inadaptés. Et qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui, Nicole ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Même nous, dans notre famille de Pied-Noir, on ne parlait jamais de l'histoire de l'Algérie. On parlait des événements d'Algérie, de la guerre d'Algérie, mais jamais de... Pourquoi ils sont arrivés là? Comment ils sont arrivés là? Et ça faisait 3-4 générations qu'ils étaient là, ils étaient chez eux. Et ils se disaient chez eux. Alors moi, j'ai la tribu des HM, à un moment donné, qui dit, en 1841, qui dit au général Bugeaud, « Ce continent est le pays des Arabes, vous n'y êtes que des hôtes passagers. Y resteriez-vous 300 ans comme les Turcs, il faudra que vous en sortiez. » Et c'était là la réalité, ce qu'on leur avait fait croire, qu'ils étaient chez eux. Mais j'en ai parlé il y a pas longtemps avec le dernier de mes oncles qui est décédé, qui avait vécu en Algérie. Je dis, mais vous n'étiez pas chez vous, quoi. À un moment donné, on a pris à certaines des terres qui n'étaient pas les vôtres pour vous les donner. C'est-à-dire qu'on a pris des terres à d'autres pour vous les donner. Et ces terres-là, elles ne vous appartenaient pas, même si vous les avez cultivées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça devait finir mal, quoi. C'était inscrit dans la genèse de l'histoire, que ça ne pouvait que se terminer mal. D'ailleurs, Maupassant, à un moment donné, écrit, parce que Maupassant était un journaliste du Gaulois, il écrivait en 1881, « Dès les premiers pas, on est gêné. C'est nous qui avons l'air de barbares au milieu de ces barbares, mais qui sont chez eux et à qui les siècles ont appris les coutumes dont nous semblons ne pas avoir compris le sens. Nos maisons parisiennes, nos mœurs que l'on veut imposer, nos usages, tout cela choque sur ce sol comme de grosses fautes d'art, de sagesse et de compréhension. Tout ce que nous faisons ici semble un défi à la terre elle-même. » Il se rendait compte chaque fois qu'il allait en Algérie que ce que nous faisions n'était pas bien, que c'était pas possible de faire comme ça. Il écrit plus loin, rien ne peut donner une idée de l'intolérable situation que nous faisons aux Arabes. Le principe de la colonisation française consiste à les faire crever de faim. Quand ils se révoltent, nous pardonnons trop vite peut-être, mais que faire? Nous sommes 300 000 Européens contre près de 3 millions d'indigènes. Nous n'avons pas dans l'intérieur un colon pour 100 Arabes. Quand ils sont sages, nous les affamons. La famine est donc venue cette année, une famine affreuse, complète. C'était la mort pour des milliers d'hommes. Mais c'est une réalité. Je veux dire, on a traité les populations. D'ailleurs, Victor Hugo, même à un moment donné, il dit c'est le peuple des Lumières qui va vers le peuple dans la nuit. Mais enfin, de quel droit? Quand on sait que Victor Hugo a écrit Les Misérables, mais de quel droit il pouvait dire qu'il y avait un peuple inférieur qui était dans la nuit? Ils n'étaient pas dans la nuit du tout. Ils avaient leur civilisation, ils avaient leur façon de vivre. Il fallait la respecter. On a fait pareil avec l'Afrique noire, d'ailleurs, et puis plus tard en Asie. Mais d'ailleurs, à un moment donné, il y en a un qui donne, je crois que c'est Ernest Rodin, qui donne la définition des peuples en disant que les Chinois, c'est un peuple de travailleurs. Et puis le nègre, c'est celui qui travaille la terre. Mais le blanc, lui, il est là pour commander parce qu'il est supérieur aux autres. C'est cette vision-là de l'Européen blanc, mâle, dominant, qui prévalait sur tous les autres. C'était l'idée qu'on avait à cette époque-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la colonisation maintenant avec les yeux d'aujourd'hui. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque, fin de l'esclavage, besoin de richesses et de retrouver des richesses et des économies. Et puis, en même temps, nous, on avait un problème en France. Parce qu'on avait quand même la révolution de 1830 et de 1848, parce que les gens, ils mouraient de faim. Ils mouraient de faim parce que la situation politique était très instable. Donc on est allé chercher ailleurs ce qu'on n'avait pas chez nous. Et on a servicé des populations pour leur prendre leurs ressources.
Alors, l'intérêt de se plonger au cœur de ce plan de l'histoire et de la comparer peut-être avec ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on parle de migration ? On parle de fuir un endroit où on ne peut plus vivre dignement, hein, que ce soit pour raisons économiques ou autres. Ça, c'est un phénomène qui existe encore aujourd'hui. Et à l'époque, quand le peuple français et européen est parti en Algérie, il y avait cette envie de remplacer la population sur place. On parlait de grand remplacement à l'époque, mais c'était nous, les acteurs de ce grand remplacement. Et on retrouve ces termes aujourd'hui. La peur que ça nous arrive, nous, ici en France, pour, excusez-moi, je vais dire un gros mot, pour Zemmour et consorts, et les gens du Rassemblement National, je suis vraiment désolé de dire ces deux grossièretés-là. Mais en tous les cas, que dire là-dessus, quoi, en fait ? On n'est pas clair. avec notre histoire.
Non, on n'est pas clair et on ne l'assume pas.
C'est ça.
Et si on n'assume pas cette période de colonisation de l'Algérie, c'est peut-être parce que ce n'est pas très propre. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire, quand on se plonge dans cette histoire-là et qu'on voit comment les choses se sont passées, qu'on lit les documents historiques, c'est-à-dire les lettres des gouverneurs de l'époque, les témoignages des militaires, les témoignages des politiques de l'époque, enfin, Jules Ferry, qui a eu quand même des propos extrêmement racistes, Ernest Renan aussi, à l'Assemblée. Maintenant, il serait en prison pour racisme, avec les déclarations qu'il faisait.
Zemmour va pas en prison pour les déclarations racistes qu'il fait.
Non. Mais l'extrême droite
ça va venir.
L'extrême droite a un problème. Quand il parle d'assimilation des populations. L'assimilation n'est pas possible. Nous-mêmes, les Français, quand on est expatriés dans d'autres pays, on ne s'assimile pas au pays d'accueil. C'est pas vrai. On reste entre nous, on cultive notre culture, on se fait importer du vin dans des pays où il n'y en a pas, et on continue de vivre comme si on était en France. Alors qu'on demande aux populations qui arrivent sur notre pays de s'assimiler, c'est-à-dire d'oublier leur culture, d'oublier leur histoire, de se dépersonnaliser, en fait, pour nous ressembler et vivre comme nous. Mais ça, c'est une illusion absolument abjecte, parce qu'on n'arrivera jamais à dépersonnaliser des gens et à les obliger à enfin, moi je regarde la mixité que l'on a dans notre population française et j'en suis heureuse, parce que on mange du couscous, on mange de la paella, on mange des pizzas et tout ça ça n'a rien à voir avec le bœuf bourguignon et le cassoulet. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter le mixage des populations, c'est une richesse.
Et puis c'est une évidence, j'ai envie de dire. C'est une évidence, oui, en France.
Mais de toute façon, c'est notre histoire. Le dis dans le livre, on est un peuple de migrants. Parce qu'avant de partir d'Alsace, c'était des Suisses qui étaient arrivés en Alsace. Quand on remonte l'histoire sous Louis XIV, qui a acheté l'Alsace et la Lorraine à l'Empire austro-hongrois et qui a dealé avec la Suisse, elle lui disait, c'était à la fin de la guerre de 30 ans et la fin de l'épidémie de peste, qui dit aux Suisses, vous avez trop de monde, vous nous les envoyez pour remplir nos villages qui sont vides parce que tout le monde est mort. On a accepté qu'il y ait des Suisses qui arrivent, mais à condition qu'ils soient catholiques quand même.
Toujours la religion qui est là qui plane.
Exactement. Hein. C'était la guerre des religions à l'époque entre les protestants et les catholiques. Donc il y a toujours, dans les migrations, c'est toujours une histoire de guerre, de problèmes économiques, écologiques aussi maintenant, avec ce qui se passe dans certains endroits du monde. Mais les populations, elles se sont toujours mélangées. Toujours. Et c'est une réalité et on ne pourra jamais empêcher ça. Et heureusement d'ailleurs.
Mais oui, c'est ce qui fait que notre France, elle est belle aussi, dans sa diversité.
C'est ça. Sinon, moi, je n'irais pas de couscous s'il n'y avait pas là.
Oui, puis en delà, au lieu de finir consanguin, c'est comme ça que l'humanité évolue aussi.
Oui, qu'on avance, oui. Tout à fait, William. Ouais. Moi, je me posais la question un peu... Pourquoi aujourd'hui, à ton avis, Nicole, pourquoi c'est aussi important de parler de cette histoire-là? Pourquoi c'est aussi important de parler de la colonisation française, de l'évoquer comme ça aussi régulièrement? Alors, je fais peut-être un lien avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Hein. On parle des migrants, on parle de l'évolution de certaines situations dans certains pays, mais pourquoi c'est aussi important d'en parler ?
C'est important d'en parler déjà pour connaître notre histoire, pour savoir d'où on vient. On ne peut pas se projeter dans l'avenir si on ne sait pas d'où on vient, c'est important. Moi, je l'ai dit à mes enfants quand j'ai écrit le livre, je dis, comprenez d'où on vient pour savoir où l'on va. Et ça fait partie de nos racines, ça fait partie de notre histoire. Et on doit l'assumer. On doit arriver à passer au-dessus de ça. Moi, j'ai pas voulu prendre parti ni pour les uns ni pour les autres dans mon livre, parce que je considère qu'il y a eu des torts des deux côtés, parce qu'il y a eu des massacres des deux côtés de toute façon. Comme mes cousins qui sont nés là-bas et qui me disent oui, mais on a été massacrés. Je dis oui, mais combien on a massacré nous aussi, etc. L'OAS a fait quand même beaucoup de mal aussi en 61 et 62. Donc on n'a pas de leçon à donner à personne. Et je discutais avec un pied noir il y a pas longtemps au salon du livre de Mazamé qui me disait oui, mais on leur a laissé des bâtiments, des routes, etc. Et moi j'ai envie de lui répondre ce qu'a écrit Aimé Césaire en 1950 qui dit On me lance à la tête des statistiques, des kilométrages de routes, de canaux, de chemins de fer. On me parle de progrès, de maladies guéries. Moi, je parle de millions d'hommes à qui on a savamment inculqué la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir. Je parle de millions d'hommes arrachés à leur Dieu, à leur terre, à leur vie, à la vie. De toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministérielles envoyées, on ne saurait tirer une seule valeur humaine. Et je trouve que ça résume bien la situation. Et on ne peut pas, on n'a aucune leçon à donner dans un pays souverain, qui l'Algérie c'est un pays souverain, donc on n'a pas de leçon à donner ni sur comment ils vivent, ni ce qu'ils font de leur bâtiment et de leur structure. Mais on doit tout le temps prôner, et j'ai presque envie de dire, le vivre ensemble, parce qu'on est condamné sur cette terre à vivre tous ensemble à un moment donné. Les populations bougent pour des raisons X, Y, et à un moment donné, on peut pas. Alors, le problème que l'on rencontre dans les guerres, et puis je sais bien que vous faites référence au Moyen-Orient actuellement, le problème c'est la religion. Alors moi qui suis athée, je suis atterré par le fait que les religions peuvent, alors qu'elles prônent l'amour, la paix, etc., peuvent prôner la guerre pour défendre chacune leur religion. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pendant l'Inquisition ? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pendant le Moyen-Âge, quand on est allé en guerre au Moyen-Orient, à Jérusalem, etc. ? On n'a des leçons à donner à personne. Et la religion, elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ni pour donner des leçons, ni pour mettre les gens, faire affronter les gens parce qu'ils ne croient pas au même Dieu ou parce qu'ils ne croient pas de la même façon au même Dieu. Et ça, c'est une souffrance pour moi parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut se battre au nom d'un Dieu qui lui dit amour et paix.
Et qui dit tu ne tueras point.
Exactement.
Tout à fait.
Moi aussi, pareil, je suis toujours dans cette éternelle incompréhension. Et quand je vois l'effet d'actualité du moment dans ce qui se passe, notamment sur la bande de Gaza, je comprends encore moins.
Mmh. Ouais. Alors, je ne suis pas sûre que ce qui se passe au Proche-Orient, ce soit une guerre de religion. Je ne suis pas certaine.
Ouais, mais il y en a beaucoup qui sont religieux.
Bien sûr, évidemment, comme dans tous les pays, il y a des gens qui sont beaucoup plus religieux, beaucoup plus pratiquants que d'autres. Mais à l'origine, si on en revient à l'origine du conflit, c'est pas une guerre de religion, c'est une guerre de territoire.
Bien sûr.
Voilà, c'est une guerre de territoire. Ça rejoint un petit peu aussi ton histoire, Nicole. Ce que tu nous racontes dans ton livre, c'est avant tout, une des gens qu'on envoie délibérément. Le mot est un peu cruel. J'aime pas ça, mais je vais le dire quand même. Envahir un autre pays aussi. À un moment donné, on s'aperçoit. Alors, je fais ce parallèle-là. Il est un petit peu, peut-être un peu péjoratif avec le Proche-Orient, parce que il y a je ne sais combien de morts aujourd'hui, combien d'enfants qui sont morts aujourd'hui, et il y a eu je ne sais combien de morts à l'époque en Algérie. Mais enfin voilà, on voit bien que c'est, pour moi, à mon sens, c'est une guerre de territoire, c'est une guerre de terre, quoi. C'est pas une guerre de religion.
Mais la colonisation de l'Algérie, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on allait chercher des ressources, des terres ailleurs, parce que dans notre pays, on avait une instabilité politique et une pauvreté, due d'ailleurs à cette instabilité politique qu'on voulait pas résoudre. Et donc, on pensait que d'aller chercher ailleurs, ça allait enrichir tout le monde de ce qu'il faut, d'ailleurs. Mais c'est ça. Et puis, il y a toujours cette suprématie de l'homme blanc chrétien sur tous les autres. Et on en revient, la colonisation, c'est une terre de territoire, c'est une guerre de territoire, mais c'est aussi cette façon de se sentir supérieur à tous les autres. Mmh. On a fait ça aux États-Unis, on a fait ça en Afrique du Sud, on a fait ça en Asie, on a fait ça en Afrique noire, on a fait ça dans le Maghreb, on a fait ça partout. Et c'était toujours la suprématie de l'homme blanc sur tous les autres. Parce qu'on considérait que l'homme blanc était supérieur aux autres. Mmh. Et que le noir en Afrique était inférieure, on pouvait le vendre, c'était une marchandise pendant l'esclavage, On pouvait les Maghrébins, on pouvait les traiter comme des
animaux, on peut le dire.
Oui, pour certains, mais pour les autres, il faut savoir qu'à l'époque, quand même, les musulmans, quand ils ont été envoyés à la guerre de 14, ils avaient la moitié de la solde des autres. Pourtant, ils se sont fait tuer autant que les autres. Et ils se sont fait tuer comme les autres. Et à la guerre de 14, il y a eu d'ailleurs 26 000 musulmans qui sont morts. Et on leur a dit, ben, si vous revenez de la guerre de 14, vous aurez la citoyenneté, l'égalité, etc. Bon, ils n'en ont pas vu le jour. Et on leur a rien donné du tout. Et puis on s'est approché comme ça de la guerre de 40, où on leur a fait la même promesse qui n'engageait que ceux qui les faisaient d'ailleurs. Et ils ont eu beaucoup plus de mal à recruter. D'ailleurs, pour aller se battre en 40. Mais il y a toujours dans l'imaginaire collectif que le blanc est supérieur aux autres. Et ça, on le retrouve dans le discours de l'extrême droite, d'ailleurs, qui parle d'une Europe chrétienne. Enfin, moi, je ne me reconnais pas dans cette Europe-là.
Moi non plus. Alors, moi, je voudrais aussi aborder un autre aspect de cette colonisation. Parce que là, on parle donc de l'homme blanc qui arrive sur ce territoire arabe et qui décide de venir le coloniser. Mais alors après, sur ces territoires en question, il y avait ceux qui étaient contre ce principe de colonisation et il y a ceux qui se sont dit « c'est une chance pour nous ». Et ça a quand même créé une division terrible dans le peuple local, dans le peuple algérien. Bien et sûr. Ça, je voudrais aussi qu'on s'arrête un peu sur cette partie-là de l'histoire et sur les souffrances que ça a pu causer après, sur cette division qu'il y a même à l'intérieur même d'un peuple.
Il faut dire qu'on n'a rien fait en Algérie pour scolariser les populations autochtones musulmanes. Je me suis penché un petit peu sur la scolarisation à cette époque-là, et 5% seulement des musulmans étaient scolarisés. Donc on n'a rien fait pour scolariser, pour éduquer, pour informer ces populations, puisqu'elles étaient là pour travailler, et travailler comme on avait envie de les faire travailler. Mais donc il y a aussi ce problème de réflexion. Il y avait une très petite élite algérienne musulmane qui arrivait à sortir du lot, mais la majorité de la population ne savait ni lire ni écrire, donc c'était facile de les manipuler et de leur faire croire qu'à des moments on pouvait leur donner un petit quelque chose et qu'ils pouvaient en tirer quelques profits, quelques animaux, quelques terres qu'on n'allait pas leur prendre, je ne sais pas. Mais la population en général s'est quand même révoltée. Je reviendrai juste sur la révolte de 1871, où il y avait 250 tribus qui se sont révoltées. Ça a été la plus grosse révolte de l'histoire. Mais les populations, c'était des tribus nomades, et les populations n'étaient pas d'accord entre elles, d'ailleurs, les tribus. Sinon, les Français n'auraient jamais pu coloniser l'Algérie s'ils avaient réussi à s'organiser. Ce qu'ils ont réussi à faire plus tard, après, et quand ils ont fondé le PPA, le Parti Populaire Algérien, et qui a donné naissance après au FLN, mais ils ont mis longtemps avant de s'organiser. Et ça, c'était un problème pour eux, parce que ça les a divisés, effectivement. Oh, il y en a qui en ont peut-être tiré quelques profits, mais combien se sont fait massacrer.
Et alors, là, il nous reste un petit quart d'heure. Je voudrais, pour ce dernier petit quart d'heure, bon, c'est fort passionnant, hein, je ne vois pas le temps passer en ta compagnie, Nicole. Je voudrais, on en a parlé ensemble avec Laïla la dernière fois que tu es venue sur cette antenne, parler de la difficulté que nous avons actuellement à soutenir la communauté arabe en France. Est-ce que tu crois que notre passé colonial avec l'Algérie est responsable de cette difficulté-là? On a plus de facilité à soutenir le peuple juif, tandis que quand il s'agit de soutenir le peuple arabe, on passe pour des gens qui soutiennent limite des terroristes. Et ça, moi, ça me fait mal. Ça fait mal à mon âme et à mon cœur de me dire mais pourquoi on différencie autant comme ça de genre d'humain?
Je pense qu'on n'a pas assimilé, on n'assume surtout pas notre histoire. Sur les terres algériennes, ça c'est une évidence, parce que la partie de la colonisation, il va falloir à un moment donné qu'on s'y penche et que les archives soient ouvertes, parce que les archives ne sont pas ouvertes encore non plus. Donc on arrive à avoir quelques documents historiques, mais les archives ne sont pas... De Broca avait fait un rapport là-dessus, et on n'arrive pas vraiment à avoir les archives. Donc on se parle déjà, qu'on assume cette histoire, et puis il y a toujours le problème de la religion. On est toujours dans l'idée que on, on n'aime pas ce qui ne nous ressemble pas et on n'aime pas ce qu'on ne comprend pas. Et la religion musulmane, qui n'est pas qu'une religion, c'est un mode de vie, on ne la comprend pas. Et à un moment donné, Maupassant il le dit d'ailleurs, à un moment donné dans un de ses articles, dit mais on ne peut pas leur imposer notre mode de vie, ce n'est pas possible. Donc comme on veut leur imposer notre mode de vie absolument, à un moment donné, ça ne passera pas. Et il faut qu'on accepte de vivre avec des gens qui ont une culture différente, qui ont un mode de vie différent et qu'on puisse vivre en liberté avec eux à nos côtés. C'est-à-dire, c'est pas pour ça qu'on va se faire envahir, c'est pas pour ça, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais les migrations, les gens qui rentrent sur le sol français, c'est minime par rapport à la population. Et quand on voit comment on a accueilli les Ukrainiens qui sont arrivés, heureusement d'ailleurs qu'on les a accueillis, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, mais tout ça, on l'a pas fait ni pour les Algériens, ni pour les Marocains, ni pour les gens qui arrivent du Moyen-Orient, ou d'ailleurs, on les a, parce qu'ils nous ressemblent pas, parce qu'ils mangent pas comme nous, parce qu'ils parlent pas comme nous, parce qu'ils prient pas le même Dieu que nous.
C'est assez effroyable parce qu'on l'a entendu dire dans les médias d'ailleurs, hein, c'est-à-dire, les Arabes non. Et puis je fais le parallèle avec l'interdiction des visas au Maghreb qu'a mis en œuvre Macron à un moment donné, à cette période-là de l'histoire, c'est-à-dire au moment où on accueille les Ukrainiens en France, parallèlement il y avait une interdiction de faire venir les étudiants issus du Maghreb. Et on l'entend dans les médias. Moi ça m'avait interpellé d'entendre dire « oui mais eux ils sont pas comme nous, tandis que les Ukrainiens ils sont blancs, ils sont européens ». C'est la même culture. Enfin, c'est grave d'entendre parler comme ça aujourd'hui. Ça m'avait choqué, moi, à l'époque, d'entendre parler de cette manière-là dans des médias importants, hein, à la télévision ou dans des... Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe pas, Nicole. Il y a quelque chose qui s'est pas passé, qui aurait dû se passer, qui s'est pas passé. Pour que tant de temps après, on en soit là à dire « Mais eux, ils sont pas comme nous, quoi. »
Il faudrait déjà qu'on accepte notre histoire. Il faudrait qu'on l'assume, qu'on passe au-dessus. Et c'est un... des objectifs que je me suis fixé en écrivant ce livre-là, c'est qu'à la fin, qu'on sache qu'on doit vivre ensemble. Et on doit se parler. Et on doit passer au-dessus de cette histoire. On est passé au-dessus de l'histoire de 40 en fraternisant avec les Allemands, malgré tous les massacres qu'ils ont faits. Je ne parlerai que de Rodour-sur-Glane. Mais on n'arrive pas à passer au-dessus de la guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est pas notre mode de vie, c'est pas notre culture, c'est pas nos façons de vivre. Ils nous ressemblent pas, ils parlent pas comme nous, ils mangent pas comme nous. Mais enfin, à un moment donné, moi, ma famille de pieds noirs, qui était installée à Nice à un moment donné, quand j'allais les voir tous les 5 ans, je leur disais, je viens chez vous faire un bain tribal. Parce que vous mangez, vous vivez comme les Arabes et vous pouvez pas les voir. Il faut m'expliquer. Parce que vous vivez comme eux. Et vous mangez comme eux. Donc à un moment donné, comment c'est possible ça? Comment c'est possible? Je sais pas, moi je ne comprends pas, je comprends pas. Mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on y arrive.
Oui, tout à fait. Bon, il va falloir qu'on termine très bientôt cette conversation. Je rappelle, Nicole, tu es venue donc ici à cette antenne pour nous présenter, enfin discuter autour de ton livre, hein, Joseph, histoire d'une migration, à l'occasion ce soir de la projection de ce film, hein, De la conquête. Un documentaire donc, qui va nous montrer des images de l'Algérie contemporaine avec des paroles qui, d'archives du moment de la colonisation. S'il y a une dernière, s'il y avait une toute petite chose, parce qu'en préparant hier soir ta rencontre, j'avais moi aussi du fait qu'on n'aime pas vraiment raconter cette histoire, je me suis retrouvé devant cette espèce de vide sidéral sur ce pan historique. J'ai découvert à Cahors, il y a un pont qui s'appelle le pont Louis-Philippe, c'est un roi qui a participé à cette colonisation. La place de Gaulle, là-haut, en haut de Cahors, qui autrefois s'appelait la place Thiers, le général Thiers, qui lui a commandité aussi ce principe de colonisation. Et je voudrais porter ça à ta réflexion. Que dire de ces rues, de ces ponts, de ces places qui portent le nom de colonisateurs, de gens de l'armée, et donc de gens, excusez-moi de dire ça comme ça, de meurtriers.
Et du jour à Paris.
Il faut les débaptiser. Ouais. Quand je vois qu'on a donné le nom de Renan à une ville, ouais, alors que Renan, c'est un sanguinaire, c'est un raciste. Quand je vois qu'il y a des rues qui s'appellent la rue Bugeaud, moi, ça m'effraie. Ça m'effraie parce qu'ils n'ont rien à faire comme référence symbolique dans notre cité.
Voilà, tout est dit. Est-ce qu'on a quelque chose, des choses à rajouter, Yves, Leïla ?
Voir le film ce soir, 18h30 notamment.
Et puis, non, moi, je voudrais saluer le travail d'écriture de Nicole. Pas parce que c'est mon ami, mais aussi parce que c'est mon ami, évidemment. Mais non, je voudrais saluer ce travail d'écriture parce que de mettre comme ça une partie de son histoire en avant, une partie de son vécu, c'est pas simple. Hein. Ça demande des ressources et
c'est énorme.
Ça demande un travail énorme, oui, d'aller documenter, d'aller chercher. C'est ce qui nous manque dans les manuels scolaires aujourd'hui, dans le programme de l'éducation nationale. J'aimerais que ça apparaisse, qu'on soit en capacité de citer des auteurs qui ont vécu des choses, qui ont parlé. J'aimerais que Nicole soit en capacité de passer dans les écoles. Au niveau de l'Occitanie, d'aller informer un peu, parler de ça, parce qu'il y a un besoin, mais surtout parce que il y a besoin d'apaisement et puisque il y a besoin que les gens se rendent compte que c'était pas aussi simple qu'on nous l'a dit à un moment donné, et que la fraternité, ça s'invente pas, la solidarité, ça s'invente pas, l'amour entre les gens, ça s'invente pas non plus, mais tout est possible pour demain.
En fait, un dernier mot, j'ai voulu aussi qu'on arrête, hein, dans les familles de pieds noirs particulièrement, de transmettre le traumatisme de la guerre d'Algérie de génération en génération. Il y a des jeunes maintenant qui parlent des Arabes parce que leurs parents ont été sont arrivés en 62. Mais moi, je leur dis, mais enfin, quand même, à un moment donné, il faut arrêter de transmettre ce traumatisme. Et pour arrêter de transmettre ce traumatisme, ben, en psychanalyse, il faut le traiter, quoi.
Totalement. Totalement. Totalement.
Oui, c'est encore effarant d'entendre, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, entendre un jeune de mon âge me dire, parce que c'est un enfant de pied noir, et me dire, je suis bien triste, j'ai pas pu aller voir mon pays. Et moi j'ai dit, mais c'est pas ton pays, c'est le pays que tes ancêtres ont envahi, mais ce n'est pas ton pays. Enfin voilà, j'aimerais bien que ça s'arrête ça aussi.
Vraiment. C'est compliqué, hein, parce que effectivement, quand il y a des enfants qui sont nés dans un pays, ils se l'approprient aussi. Il y a plein d'adultes aujourd'hui qui sont nés ailleurs et qui aiment autant la France, hein, qu'ils aiment le pays dont ils sont originaires, là où ils ont grandi, là où ils sont nés. Et on peut pas leur enlever cette alors ça encore.
Alors là, je parlais d'un fils de pied noir, mais en France. Hein.
D'accord. Ok.
Qui a jamais mis ne serait-ce que le petit orteil en Algérie. Hein.
Ouais, effectivement. Donc ça reste compliqué de lui faire entendre raison. J'ai envie de te dire.
J'ai l'impression d'entendre une parole de colon.
Ouais.
Peut-être je me trompe, mais c'est ce que j'ai l'impression d'entendre en fait quand j'entends des phrases comme ça.
Et moi j'aime bien le propos de Nicole là qui parle de traumatisme, parce que c'est vraiment ça, on voit que ça se transmet de génération en génération malheureusement. Là aujourd'hui on voit que il y a des parents qui sont nés là-bas, qui sont meurtris de cette histoire, que ce soit les pieds noirs ou des enfants d'immigrés d'origine algérienne, et on voit que cette blessure là qu'elle va impacter des générations. C'est-à-dire que des gamins de 15-16 ans, je fais référence par exemple aux jeunes qui ont fait partie des révoltes urbaines à Nanterre, où on voit bien que ces enfants-là, ils ont des blessures énormes qui n'ont pas été traitées. Et le traumatisme, oui, effectivement, ça se soigne, quoi. Ça se soigne, mais il faut encore aussi qu'au niveau politique, qu'au niveau intellectuel, qu'au niveau de tous ces gros intellectuels qu'on a en France, on soit en capacité de le faire et de le faire réellement pour aider les générations futures, c'est-à-dire pour accompagner et aider nos enfants, l'avenir de la France.
Mais après, c'est normal qu'ils étaient traumatisés, ils ont vécu un traumatisme. Bien sûr. Ils n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé en 62, ils n'ont rien compris. Et ils étaient chez eux, mais c'est vrai, en même temps, ils étaient là depuis 3-4 générations, on est chez nous. Tout comme les Arabes sont chez eux maintenant en France, au bout de la troisième ou quatrième génération, ce qu'on ne leur reconnaît pas. C'est ça le problème aussi. On ne reconnaît pas aux Arabes qui sont en France depuis 3 générations, qui sont chez eux, alors que nous, on dit on était chez nous après 3 générations. Il y a quand même toujours cette différence-là. Mais le traumatisme, il est réel et il est normal. Je veux dire qu'à un moment donné, ils ont vécu un déracinement, ils ont vécu un profond traumatisme. Donc, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils ont été complètement manipulés politiquement et les premiers colons qui sont arrivés là-bas et les pieds noirs qui sont arrivés en 62.
Et les générations d'enfants qui sont nés en France, issus de l'immigration aussi.
Et qui portent toute cette histoire.
Oui, tout à fait.
Très bien. Bon, merci beaucoup pour cette discussion passionnante, discussion qui se poursuivra tout à l'heure après la projection du film De la Conquête, qui vous attend donc à 18h30 au cinéma Le Grand Palais à Cahors, avec toi Nicole, et aussi donc avec Leïla et Yves. Nicole, on rappelle donc Nicole Fréchou, pour redonner ton nom entier, pour ceux qui voudraient retrouver ton ouvrage Joseph, j'ai perdu ma ligne, pardon.
Histoire d'une migration.
Histoire d'une migration. Tu as d'autres livres à
moi,
ton compte ?
Je vous conseille aussi de lire, et c'est très complémentaire, le livre de Mathieu Bellesi, Attaquer la Terre et le Soleil. C'est l'histoire d'une famille qui va s'installer en Algérie dans les premières années de la colonisation, dans des conditions affreuses. Vous découvrirez ça, c'est vraiment très très bien décrit.
Très bien. Et pour se quitter, je vous propose qu'on écoute le dernier morceau de Kenny Arcana qui s'appelle Gaza. Merci à vous tous.
Merci. Merci William.
Super.
Oui, détourne ton histoire.
Détourne ton histoire.
Mais au fond, ils savent très bien. Bafoué par des ignares qui aboient trop fort, mais toute la terre est témoin. Enclavé comme du bétail par celui qui t'a volé ta terre. Seul au monde à la merci de l'oppresseur qui veut te voir disparaître. Et les puissants soutiennent celui qui veut t'abattre. Des pluies de missiles comme si vous calomniés même sous les bombes, font tout pour déshumaniser. L'oppression se compte en générations, mais diront que c'est toi le monstre à l'arrivée. Prendront soin de jamais mentionner l'apartheid. Prendront soin que jamais la paix se négocie. Les médias, eux, oseront appeler ça la guerre. Mais une armée contre un peuple, c'est un génocide. Et les puissants soutiennent celui qui... est abreuvé de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif. Terre sacrée est abreuvé de sang. Gouvernement d'extrême droite et son fanatisme sera lynché qui prendra ta défense. Injustice jusqu'au narratif.